Amis auditrices et auditeurs, bonjour. Voici notre troisième rendez-vous concernant l'histoire de Saint-François de Sales, notre école, avec Thierry Beria, qui est devant moi, et moi-même, Michel Marpeau. Nous nous sommes quittés la fois précédente avec l'histoire de la chapelle, construite et inaugurée en 1937. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre période, nous allons parler de la guerre. Et nous allons intituler cette émission « École détruite, école dispersée, école reconstruite ».
Oui, alors nous sommes dans une école chrétienne, nous sommes dans une radio chrétienne. On ne m'en voudra pas si j'essaye de donner d'entrée de jeu une perspective chrétienne, n'est-ce pas? Dans la logique chrétienne, il y a le temps des bénédictions qui est suivi ensuite par le temps des épreuves. Eh bien, c'est très exactement ce que nous avons vécu à Saint-François. Il y avait eu le temps des bénédictions, la chapelle inaugurée en 1937, un bâtiment que l'on appelait à l'époque le bâtiment neuf à usage d'enseignement, qui avait été construit par un ancien élève de l'école qui était architecte et qui s'appelle Marcel Mézin et qui est inauguré en 1939. Il y a la stabilité due à un supérieur remarquable, l'abbé Bidard. Il y avait une extension de nos élèves, une augmentation de nos effectifs. Tout semblait nous sourire. Et pourtant, il y a des bruits de guerre qui sont là. Mais Alençon est loin de la frontière, nous nous sentons préservés et nous ne le serons pas tant que cela.
Oui, la guerre va frapper l'école et avoir un grand impact sur l'établissement.
Oui, je n'étais pas né à cette époque, bien sûr, mais j'ai recueilli de très nombreux témoignages d'anciens élèves de cette époque et pour tous, ça a été un moment très fort. Mais invariablement, quand ça revient dans leur bouche, ce n'est pas une période de traumatisme et de tristesse. C'est au contraire une période excitante, une période d'exaltation. Il faut faire, bien sûr, la part de la jeunesse. Ce sont des adolescents et ils ont été en grande partie préservés par les adultes qui ont veillé à les protéger. Mais ils ont tous gardé le sentiment d'une période où les êtres ont révélé leur fond profond qui était souvent héroïque.
Alors donc, quel impact a eu cette Deuxième Guerre mondiale pour Saint-François? Je me souviens, mon oncle, le père Marpeau, parlait de occupation.
Oui. En fait, des occupations, il y en a eu plusieurs. Occupation ou affectation. Peut-être que le mot d'affectation irait mieux. Alors, les locaux vont être réquisitionnés à plusieurs moments et par plusieurs gouvernements. Dès octobre 1939, les bâtiments principaux sont réquisitionnés pour être transformés en hôpital en prévision des événements. De fait, dès le 14 octobre 1940, les bombes vont pleuvoir. Alors, il faut bien distinguer les bombes qui sont tombées en 1940 et qui étaient allemandes et celles qui tomberont en 1944 et qui seront américaines. Là, en octobre 1940, les bombes qui pleuvent sont allemandes, c'est la gare qui est visée, c'est l'école qui est touchée, on apporte... Mais il y a des blessés, des morts, et il faut les amener, on les amène à Saint-François, qui recueille donc ces morts et ces blessés comme hôpital. Et puis c'est l'exode vers le sud, l'école cesse vite d'être un hôpital. Le 17 octobre 1940, dans l'après-midi, les Allemands arrivent. De nouveau, l'école est réquisitionnée, cette fois pour devenir un hôpital de contagieux. Mais pas longtemps, de nouveau, une nouvelle affectation pour que cela devienne un hôpital de prisonniers.
Saint-François était donc une prison à un moment?
Très peu de temps, car ce n'est décidément pas la vocation de Saint-François d'être une prison, ni pour des élèves, ni pour des prisonniers militaires. Les champs sont tout proches de notre école et l'évasion était très 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 facile. C'est pourquoi très vite, au bout de quelques semaines simplement, l'école cesse d'être une prison et on va remplacer cela par une compagnie d'infanterie. Puis, avec tous les services qui sont affectés à cette compagnie d'infanterie. Mais la grande date dont tout le monde se souvient à cette époque-là, c'est la date du 31 mai 1943. Car ce jour-là, les Allemands arrivent à l'école et donnent très exactement 3 jours aux professeurs et aux élèves pour partir. Les meubles sont entassés sous le préau et l'école devient ainsi un hôpital militaire allemand. Donc si je récapitule, hôpital d'abord, puis camp de prisonniers, puis hôpital pour contagieux, puis hôpital militaire allemand, et j'en oublie, on voit que l'école a été très utilisée, très réquisitionnée.
Nous gardons le souvenir de soldats allemands tués lors de bombardements.
Oui, c'est vrai. Il y a à cet égard un témoignage de Gilbert Thiel, qui devait être notre invité aujourd'hui, mais qui n'a pas pu venir parce qu'il est souffrant. J'en profite au passage pour le saluer. Il y a un article que Gilbert Thiel avait écrit à ce moment-là et qui évoque justement cette destruction, cet bombardement de la chapelle. Mais cette fois-ci, il s'agit bien sûr d'un bombardement en 1944. Je vais lire un extrait de ce passage. « L'une de ces bombes avait frappé la nef de plein fouet, explosant probablement au contact du sol de la nef. Elle avait percé un énorme trou de plusieurs mètres de diamètre et fait un carnage dans la crypte où, disait-on, s'étaient abrités des dizaines d'Allemands. Sérieusement endommagée, la voûte de la nef en ciment armé subsistait en majeure partie. Curieusement, elle paraît s'être soulevée d'un bloc pour retomber sur les murs porteurs en se déplaçant de quelques centimètres. Il n'était pas trop difficile d'accéder à la crypte en enjambant les gravats qui encombraient l'escalier. Elle n'était, elle aussi, que débris. Le trou au-dessus de nos têtes laissait voir la voûte de la nef. Au fond de la crypte, il y avait l'estrade. Ce n'était plus qu'un enchevêtrement de planches. C'est là que nous avons trouvé le cadavre. Soulevant au hasard l'une de ces planches, nous avons vu ses pieds. Nous avons dégagé l'amas qui l'ensevelissait depuis bientôt 10 mois. Il était tout poussiéreux et comme desséché dans son uniforme. Il n'avait plus de visage. Sa tête n'était qu'un vide affreux. C'était le premier Allemand mort que je voyais. Nous étions tentés de chercher ses papiers pour l'identifier, aucun n'osa le faire. Lequel d'entre nous a déclaré cette découverte à l'autorité supérieure, je ne le sais plus. Ainsi donc, c'est vrai que la chapelle a été très 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 profondément atteinte.
Et les photographies de l'époque montrent une école totalement dévastée.
Oui, oui. On peut évoquer 2 dates. D'abord, la date du 9 juin 1944. C'est ce jour-là que, d'une part, la chapelle reçoit des bombes, est éventrée, se produit l'événement dont j'ai lu un passage. Et ce jour-là également, le bâtiment central est incendié. Il y a d'autre part la date du 26 juillet 1944. Cette fois-ci, c'est le bâtiment neuf, ce pauvre bâtiment neuf inauguré en 1939, qui est profondément atteint par des bombes et qui devra être ensuite reconstruite. Mais là, ce sont les dégâts qui sont des dégâts dans des pierres, dans de la brique. Une école, ce n'est pas simplement des bâtiments de pierre, ce sont aussi des pierres humaines. Et là aussi, nous avons payé un tribut de vie et de sang, parce que cette époque fut l'époque où nous avons eu des professeurs, des anciens élèves, fusillés, prisonniers, amenés en naufrag. Mais de cela, j'aimerais en parler dans une autre émission.
Donc, le temps passe et vous souhaitez mettre l'accent sur une période plus joyeuse, la période de la reconstruction. Auparavant, une petite pause musicale. Nous reprenons avec Thierry Beria l'histoire de Saint François de Sales, notre école.
Je viens d'évoquer les pertes humaines, les destructions matérielles, mais quand on traverse une épreuve victorieusement, cela fait grandir. On arrive à un niveau de conscience, d'existence supérieure, et je pense que c'est ce que va connaître notre école. La guerre l'a durement éprouvée, mais elle va se reconstruire à la fois dans son corps de pierre et dans son corps de chair. Alors le corps de pierre d'abord. Dès 1945, les élèves vont revenir progressivement, il faut les accueillir. Pour cela, il faut des lieux d'enseignement, il faut un réfectoire, il faut des dortoirs. Les travaux commencent. Dans un premier temps, il y aura des bâtiments préfabriqués pour accueillir les élèves. Dès 1948, le bâtiment neuf va être reconstruit. On va lui donner le nom de Marcel Mézin, puisque c'était l'ancien élève qui fut architecte de cette école et qui est mort durant la guerre. On a ainsi voulu l'honorer. Le bâtiment central, lui, va être reconstruit progressivement grâce aux dommages de guerre. On en profitera pour construire un étage supplémentaire, le troisième étage. Et puis, ce que l'on appelle le bâtiment Sainte-Marie, c'est-à-dire le bâtiment qui actuellement accueille les élèves de l'enseignement primaire, est aussi construit à ce moment-là. Mais, ce qui était le point de départ, je rappelle une phrase que j'ai citée à plusieurs reprises au cours des émissions précédentes, une phrase de l'abbé Bidard. L'abbé Bidard disant « Maintenant, il faut reconstruire, il faut commencer par la chapelle ». Bien sûr, la chapelle va être l'objet d'une longue et lente campagne de reconstruction.
Et pendant tout ce temps-là, où sont les élèves ?
Alors j'évoquais tout à l'heure des préfabriqués.
Les préfabriqués, mais on n'appelait pas ça des préfabriqués à l'époque, hein, appelait ça des baraquements.
Tout à fait. Mais le mot baraquement, maintenant, a des connotations qui évoquent la guerre. Mais c'est vrai que nous sommes au lendemain de la guerre. Mais je rappelle que cette époque, je ne l'ai pas connue, je n'étais pas né. Je souhaite donc donner la parole à quelqu'un qui a vécu cela. Alors, j'avais invité, je le rappelle encore, notre ami Gilbert Thiel, qui a vécu de près cette époque-là et qui devait nous donner son témoignage. Il ne peut pas. Mais très gentiment, mon ami Damien Dagron, qui est un ancien élève de l'école, qui est un ancien professeur de l'école, a accepté de faire part de ses témoignages. Alors c'est vrai qu'il est venu en 1953, c'est-à-dire après la guerre. Mais d'une part, il garde des souvenirs de cette époque-là. Et d'autre part, il a recueilli des témoignages de personnes qui ont vécu cela. Je souhaite donc lui donner la parole pour évoquer un certain nombre de souvenirs.
Écoute, merci Thierry de me donner effectivement la parole. Et avec toi, avec Michel, avec Gilles Follin, nous avons réalisé un film sur l'histoire de Saint-François. Et j'ai donc eu l'occasion de voir un certain nombre de photos de l'école détruite et de recueillir le témoignage de M. Boutémy qui lui est arrivé en 1947. Or, M. Boutémy me disait qu'à cette époque-là, le pavillon central n'était pas reconstruit. Le pavillon Mézin, on venait de terminer sa construction. Et les baraquements que moi j'ai connus, puisque j'ai été la septième, je crois, à cette époque-là, j'ai été en cours dans ces baraquements qui se trouvaient entre le réfectoire et le terrain de sport de maintenant, près du bosquet. Et je suis donc arrivé en 1953, et là se terminait la construction du dernier étage du pavillon central. Et j'ai inauguré le dernier dortoir au troisième étage avec comme surveillant celui qui deviendra par la suite le directeur au moins pendant 25-30 ans, qui est donc le père Bréard. Pour monter à l'étage, il y avait un escalier et les règles de sécurité de l'époque n'étaient guère respectées. Si bien comme il n'y avait pas de rampe, le surveillant était obligé de se lever une ou deux fois la nuit parce que mon frère jumeau somnambule pouvait éventuellement ouvrir la porte et descendre. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi de cette époque? On parle de reconstruction, mais il faut quand même savoir que pour qu'elle puisse se faire, nos conditions de vie n'étaient pas non plus très faciles. On dormait dans des dortoirs où en hiver, le givre et la glace apparaissaient sur les fenêtres. J'ai eu une nourriture qui était à la hauteur peut-être de l'enjeu. Et j'ai souvenir, par exemple, que le potage qu'on nous servait parfois le soir était l'eau de cuisson qui avait permis de cuire le riz. Et M. Boutemi racontait une petite anecdote assez amusante. À son époque aussi, les repas étaient peu variés. Et en dessert, ils avaient le lundi une pomme, le mardi une pomme, le mercredi une pomme. Et puis, à force de manger des pommes, de temps en temps, on les met au sol et on fait une partie de foot. Et le jeudi, on mangeait une compote de pommes faite avec celle qu'on avait ramassée, donc la veille ou l'avant-veille. Voilà un peu des conditions dans lesquelles moi j'ai découvert Saint-François, en sachant que sa reconstruction, tu parlais de la chapelle qui s'est faite sur un long temps, comment le préau qui avait été éventré, qui nous a servi d'abri pendant un certain temps, était dans un état relativement vétuste, mais on était quand même en sécurité. Et puis cette cour, qui maintenant est très agréable puisqu'elle a été goudronnée, il a fallu attendre 30 ans pour qu'elle soit remise en état. Voilà. C'est ce que je peux dire, aussi une petite note amusante. Pour nous, la guerre, par exemple, un souvenir assez amusant, on avait des élèves externes qui nous ramenaient du fumigène et qui on faisait des fusées. Alors, bien sûr, sans que les surveillants ne s'en rendent compte, on mettait ça dans des boîtes de comprimés et on envoyait ça en l'air. C'était une occasion de s'amuser pendant les récréations.
Bien. Je vous remercie, Damien. Je pense au titre de notre émission, l'école détruite, l'école reconstruite, et on avait dit également l'école dispersée.
Cette dispersion n'a pas eu lieu tout de suite. Dans un premier temps, le choix a été fait de préserver l'enseignement sur place. Certes, le bâtiment central est réquisitionné, mais il y a ce que l'on appelait le pavillon neuf, le bâtiment neuf qui va devenir le pavillon Mézin. Et pendant plusieurs mois, l'enseignement a lieu là. Les élèves, d'ailleurs, ne gardent pas un mauvais souvenir de cette époque. Ils se sentaient préservés. Tous sont unanimes pour témoigner combien les professeurs faisaient écran entre les événements et l'enseignement et les protégeaient. Tous ont vécu cette période comme une période d'aventure, une période où l'enseignement se mêlait aux événements historiques.
Alors, que se passe-t-il quand l'école est entièrement occupée par les Allemands.
Ah, cette fameuse date de 1943. C'est vrai. Parce que là, ça va être véritablement le temps de la dispersion. Et une dispersion qui va se faire dans divers lieux. Les 6e, les 5e et les pensionnaires vont être recueillis et vont avoir leur enseignement au château du Chevin que va nous sous-louer l'Hôtel Dieu. Les 4e, les 3e et les internes auront leur enseignement au château de Saint-Denis-sur-Sarthon que le propriétaire, M. Delâtre, qui avait laissé son fils Henri comme notre élève, nous avait prêté en signe de reconnaissance. L'école Sainte-Marie en ville va recueillir des externes de collège et dans le quartier Saint-Léonard se trouvent les élèves de lycée et d'autres internes. Si je récapitule, le château du Chevin, le château de Saint-Denis-sur-Sarthon, l'école Sainte-Marie, le quartier Saint-Léonard, des familles qui acceptent de loger aussi des internes, il faut imaginer les mouvements incessants de cette époque. Beaucoup d'élèves de province se sont réfugiés en province et se sont réfugiés en Alençon. Donc nous n'avons pas seulement nos élèves traditionnels, mais des élèves qui sont là à titre de réfugiés. Et il faut imaginer les professeurs en bicyclette qui vont d'un lieu à l'autre pour donner leur enseignement. Certains se souviennent de cohortes d'élèves sur les routes conduites par les divers professeurs de l'école, conduits par l'abbé Bidard, en soutane. Et c'est vrai que ces mouvements incessants, que cette nécessité de s'adapter correspondait aussi à l'époque.
Bien, nous allons arrêter là notre émission pour aujourd'hui, mais dès à présent, on sait que la prochaine émission traitera du bilan humain de la guerre, c'est-à-dire la participation des professeurs, des élèves à la guerre et les victimes, etc. Ce sera la prochaine fois.
Entendu. Eh bien, à bientôt.